La parole de Dieu ce matin dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, et nous allons commencer à partir du verset 69. Matthieu 26, 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et a juré, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois, et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est là devant nous, et nous te demandons que par ta grâce, elle puisse encore éclairer nos cœurs ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'amour immense dont nous sommes les bénéficiaires, pour ta grâce que tu as étendue sur nos vies. Seigneur, merci, car qui pourrait subsister devant toi si ce n'est revêtu de ta justice? Et nous te louons, parce que c'est là notre privilège à tous, d'avoir eu recours à cette grâce ineffable. Et merci aussi, Seigneur, de nous montrer que tu demeures éternellement le même. Viens, Seigneur, ce matin, nous bénir au travers de cette méditation, que ton onction repose sur nous tous, sur mes frères et sœurs, sur moi-même, et que, Seigneur, ta parole puisse être une réelle bénédiction pour tous en cette matinée. Nous te le réclamons dans le nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais vous livrer le titre de la méditation ce matin. C'est « Restauration d'un saint qui a péché ». Je suis vraiment reconnaissant à Dieu, parce que au travers de la parole de Dieu, nous voyons que le pardon des péchés est le plus grand des dons que Dieu pouvait faire à l'humanité. Son pardon, sans pardon, il nous serait impossible de dire ce matin que nous sommes sauvés. Il nous serait impossible aussi d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir une vie spirituelle normale, et sans pardon, il nous serait impossible aussi d'avoir la victoire sur la mort et de contempler la perspective du ciel. D'ailleurs, quand pour la première fois l'Éternel s'est révélé à Moïse, il l'a fait selon ce que dit le livre de l'Exode au chapitre 34 et au verset 6 et 7 en ces termes. Il s'est fait connaître de la manière suivante. Je suis l'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et il a affirmé qu'il pouvait accorder la bénédiction jusqu'à 1000 générations. Et il se souvenait seulement du péché de ceux qui avaient transgressé la loi seulement sur 3 générations. Le prophète Michée nous dit au chapitre 7 de son livre et au verset 18, « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne le péché ?» Et dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 7, cet apôtre nous dit ceci, « Si nous marchons dans la lumière, comme le Seigneur est dans la lumière, alors nous sommes en communion avec lui et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Mais il est ajouté, « Si quelqu'un dit être sans péché, il est un menteur. » Nous avons donc un privilège formidable de connaître le Dieu qui accorde le pardon. Au cours de l'histoire de la rédemption, il y a peu de personnes qui sont allées, disons, si loin dans le reniement comme Pierre a pu connaître cette amère expérience selon ce que nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu. Et il a commis en effet un acte qui est extrêmement grave, mais en même temps, en voyant comment Dieu l'a relevé, comment Dieu l'a restauré, eh bien, nous trouvons au travers de ce texte un puissant encouragement pour chacun d'entre nous et une source de consolation pour tous les moments où nous-mêmes nous sentons nos propres défaillances et nos propres faiblesses. Mais j'aimerais ce matin souligner quelque chose, c'est-à-dire que je ne peux pas arriver à concevoir que l'on sombre subitement comme cela dans un acte aussi répréhensible sans qu'il y ait eu au préalable des pas qui ont préparé à une telle expérience négative. Voyez-vous, je ne crois pas que Pierre se soit trouvé comme cela subitement devant une situation embarrassante et que finalement il est tombé comme cela spontanément sans même avoir eu l'occasion au préalable de se préparer à une situation aussi difficile que celle qu'il a connue et celle qu'il a traversée. Et je verrai avec vous dans un moment comment en effet Dieu avait voulu le préparer pour une situation semblable, mais il a manqué, hélas, d'attention. Et parce qu'il a manqué d'attention à la voix de Dieu, alors il est tombé dans le péché. Je vais avec vous essayer de découvrir les différents pas qui sont allés dans cette direction du reniement de Jésus. Pour moi, le premier pas est présenté dans l'Évangile sous la forme d'une grande vantardise. En effet, nous savons tous comment le Seigneur, à un moment donné, l'a averti et il a répondu en disant quand bien même tous seraient une occasion de chute, eh bien moi, ça ne sera jamais le cas pour ceux qui me concernent. Et au travers de cette parole, il révèle non seulement qu'il est sûr de lui, mais je dirais aussi qu'il contredit la prédiction qui est faite par le Seigneur, en s'appuyant sur son assurance, en s'appuyant sur sa consécration au Seigneur, il se considère comme étant incapable de déloyauté. Et c'est, je dirais, le premier pas. Il était certain d'avoir atteint une certaine maturité spirituelle, d'avoir sa priorité ou ses priorités dans le bon ordre, avoir une ferme conviction, et tout cela, eh bien, l'a fait lui a permis de développer en lui une certaine assurance, je dirais une certaine vantardise qui l'a fait tomber dans le péché. C'est le premier pas quand il s'est trouvé en face de la prédiction du Seigneur. Mais le deuxième pas, eh bien, c'est l'insubordination qu'il a manifestée en persistant avec une attitude de défi et en rejetant l'évaluation que Jésus faisait de sa propre personne. En intensifiant son affirmation antérieure, il a déclaré au verset 35 de ce chapitre 26, que je vais vous lire maintenant. Il dit, « Pierre a répondu au Seigneur, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Ainsi donc, nous voyons que Pierre a, en fin de compte, eh bien, intensifié cette affirmation qu'il ne renierait pas le Seigneur et qu'il tiendrait ferme. Et de cette manière-là, eh bien, il était insubordonné au Seigneur et il a manifesté, en ajoutant à la vantardise, un peu d'orgueil. Le troisième pas de Pierre s'est présenté sous la forme d'une absence de prière. Je voudrais vous rappeler ce qui s'est passé juste quelques temps au préalable, quand la parole de Dieu nous révèle que Jésus est entré dans le jardin de Gethsémané. Et quand il est rentré dans le jardin de Gethsémané, il s'est éloigné pour avoir un moment de communion intense avec son Père. Et nous le voyons se livrer à la prière, se livrer à l'intercession. Et puis, il a amené avec lui les trois disciples que nous connaissons, Pierre, Jacques et Jean. Et nous nous apercevons, parce que l'Évangile nous révèle cela, que ces trois disciples se sont endormis. Et quand Jésus est retourné vers eux, il leur a dit, « Vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi. » Et ensuite, il les a laissés encore une fois, après leur avoir donné cette recommandation, « Veillez et priez. » Et ça, c'est une recommandation qui est très importante. Et il s'est éloigné pour continuer à avoir cette relation avec son Père. Et les trois disciples, à deux reprises, se sont également endormis. Le Seigneur a pu s'apercevoir de cette manière que l'esprit était bien disposé, mais la chair faible. Et c'est d'ailleurs ce qu'il leur a fait comme remarque. Il leur a dit « Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et étant donné qu'ils ne voyaient pas l'importance de la déclaration que le Seigneur avait faite et leur avait donnée, ils n'ont pas pu reconnaître leur propre fragilité. Et Pierre, en particulier, n'a pas pu voir quelle était sa véritable faiblesse. Et il est tombé dans le péché et il a renié son Seigneur. C'était le troisième pas vers le reniement. Je répète, il y a eu l'avantardise, il y a eu l'insubordination. Le troisième pas, c'est le manque de prière. Et le quatrième pas de Pierre vers, je dirais, le reniement, eh bien, s'est présenté sous la forme d'une impulsivité mêlée d'indépendance. Il ne ressentait pas cette grande nécessité de dépendre du Seigneur. Et il a même pensé à un moment donné que c'était lui qui était capable d'aider et de secourir le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous voyons à un moment donné dans l'évangile de Matthieu, alors que Jésus se trouve justement sur le chemin de la croix, et particulièrement il est là dans le jardin de Gethsémané, il y a une foule qui s'approche du Seigneur, et Pierre, à un moment donné, eh bien, s'est tourné vers l'un de ces personnages qui venait pour arrêter le Seigneur, et il a étendu la main, ayant pris son épée, et il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Ça voulait dire que finalement, il croyait, lui, être le moyen d'être un secours pour le Seigneur. Le Seigneur lui avait révélé d'une manière indirecte que c'est lui qui avait besoin de recevoir la force d'en haut, de recevoir la force de la part du Seigneur lui-même. Mais lui a usé de cette présomption-là, et dans une forme d'indépendance, il a agi, je dirais, d'une façon qui est redoutable. Voyez-vous, nous ne pouvons pas, et j'ai entendu souvent cette prière sortir de la bouche de plusieurs d'entre vous, « Sans toi, nous ne pouvons rien faire ». Quand nous sentons notre dépendance du Seigneur, nous pouvons être préservés, nous pouvons être gardés. Mais quand il y a une sorte de suffisance et que nous croyons que nous pouvons nous-mêmes, eh bien, par notre jugement, passer devant la volonté de Dieu, nous sombrons dans l'iniquité et nous tombons comme Pierre dans le péché. Le cinquième pas, je dirais, se présente sous la forme d'un compromis. C'est étonnant peut-être d'entendre cela de ma part, mais le compromis se voit dans le fait que justement Pierre est entré là où il n'aurait jamais dû mettre les pieds. Et le compromis s'est fait au moment où il s'est réchauffé les mains en compagnie des païens qui étaient là dans la cour du souverain sacrificateur, et il était là exposé. Vous savez, j'aimerais vous dire qu'il y a des versets dans la parole de Dieu que nous avons une tendance à interpréter d'une manière qui n'est pas tout à fait correcte. Par exemple, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13, il est dit que le Seigneur peut, en quelque sorte, nous faire sortir de certaines épreuves. Il a préparé le chemin par lequel nous pouvons en sortir et qu'il peut venir à notre secours. C'est un fait certain, et même dans la deuxième épître de Pierre, cet homme qui a déjà fait une certaine expérience avec Dieu a écrit au chapitre 2 de sa deuxième épître et au verset 9 que le Seigneur est capable de délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Mais je dois préciser ici, mes chers frères et sœurs, que ces promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu ne s'appliquent pas quand il y a une désobéissance délibérée. Et ça a été le cas, justement, de Pierre. Évidemment, nous pouvons connaître certaines épreuves, certaines difficultés, et expérimenter le secours de Dieu d'une manière formidable, parce que Dieu est tout-puissant. Mais quelquefois, eh bien, nous payons très cher le prix, parce que nous sommes nous-mêmes engagés dans une voie de désobéissance, et là, nous ne pouvons pas prétendre à cette promesse qui est faite dans la parole de Dieu, qu'il délivre les hommes pieux, à moins qu'il y ait une véritable repentance et un retour vers le Seigneur. Pierre ne parvenait pas à accepter la parole du Seigneur parce que son ego, et je dirais son autosuffisance, s'était rendu maître de lui-même, et il était dans l'incapacité d'entendre tous les avertissements qui venaient de la part de Dieu. Ce qui nous amène à dire ce matin que nous avons besoin de demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce d'un cœur humble, pour que nous soyons attentifs aux injonctions de son esprit, quant au travers de sa parole, peut-être au travers de dons spirituels, ou simplement par une action directe de son esprit dans notre vie et dans notre cœur, il nous lance certains avertissements. C'est pour que nous puissions, à ce moment-là, répondre comme il se doit, en nous plaçant dans la prière, dans une réelle communion avec Dieu, et en cherchant sa face humblement, et en passant du temps devant lui, pour qu'il puisse briser tout ce qui a tendance à s'élever en nous. Justement, comme il avait fait tous ces différents pas, malgré les avertissements du Seigneur, il est tombé, et nous voyons l'effondrement de Pierre. La parole de Dieu nous dit que justement il est entré dans cette cour de ce souverain sacrificateur Anne. Et là il peut y avoir une contradiction avec ce que dit un autre évangile. Donc ici il est parlé de Caïphe, dans un autre évangile, l'évangile de Jean, il est parlé de Anne. Et certains ont pensé qu'il y avait là une contradiction entre ces deux évangiles. Mais ce n'est qu'une contradiction apparente, et je vais essayer de vous expliquer la raison pour laquelle, d'un côté, il est parlé de cette cour qui était la cour de la maison de ce grand souverain sacrificateur Anne, et de l'autre côté, il est parlé de Caïphe. La parole de Dieu nous dit aussi que Caïphe était le gendre de Anne. Et voyez-vous, dans le monde antique, eh bien, les maisons qui étaient très grandes abritaient aussi les nombreux membres de la famille. Quand, par exemple, une famille avait une certaine maison et qu'un enfant venait à se marier, alors on ajoutait une aile à cette maison-là. Et c'est comme cela qu'il y avait de grandes maisons autour d'une cour commune, et cette cour pouvait être aussi bien la cour de Caïphe que la cour de Anne, puisque c'était tout un ensemble. Et il n'y avait donc pas de contradiction possible. Et quand Pierre est arrivé jusqu'à la porte de cette cour, alors il n'a pas pu entrer. Par contre, il était accompagné d'un autre disciple. Je ne sais pas, parce que la Bible ne nous dit pas le nom de cet autre disciple. Probablement s'agissait-il de Jean. Et Jean est entré en laissant Pierre dehors. Mais il a pu parler avec justement une servante, une portière de cette cour-là. Et quand il a parlé à cette portière, parce qu'il était un ami du souverain sacrificateur, alors la portière a laissé aussi entrer Pierre. Je ne sais pas quelle était la relation qu'avait cet autre disciple qui suivait le Seigneur avec le souverain sacrificateur, mais en tous les cas, c'est le témoignage qui est rendu dans l'Écriture. Et le fait qu'il ait eu cette amitié a permis à cet homme d'être un moyen par lequel Pierre est entré. Mais ce n'était pas la meilleure chose pour Pierre, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que là, il s'est exposé à être reconnu par plusieurs. Et d'ailleurs, la première personne à l'avoir reconnu, c'est cette femme servante qui lui a dit « Mais tu fais partie des disciples du Seigneur. » Et pour une première fois, il a dit « Non, je ne connais pas cet homme. » Puis une autre personne, une autre servante, lui a dit la même chose « Mais tu fais partie des hommes qui ont suivi le Seigneur. » Et il a dit non pour la deuxième fois. Et la parole de Dieu nous dit dans un autre évangile qu'à peine une heure plus tard, quelqu'un est venu. Alors c'est curieux, parce que celui qui est venu, c'est un homme. Et il lui a dit, mais toi, tu fais partie de ceux qui suivent le Seigneur. parce que je te reconnais à ton accent galiléen. » Et il a dit, mais je ne sais pas ce que tu dis, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est quand même curieux que Pierre ait pu parler de cette manière-là. Et vous savez qui était celui qui lui a dit, tu fais partie des disciples du Seigneur? C'était un parent, selon ce que nous dit un autre évangéliste, et c'était un parent de Malchus qui avait eu l'oreille tranchée par l'épée de Pierre. Alors imaginez un peu comment cet homme ne pouvait pas reconnaître celui qui avait atteint un membre de sa propre famille. Et malgré, justement, tellement d'évidence, Pierre, avec imprécation, ça veut dire, écoutez bien, frères et sœurs, qu'il a mis, au travers de ses imprécations, Dieu comme témoin. Vous voyez qu'il est allé très loin, n'est-ce pas, dans, je dirais, le reniement et le péché qu'il a commis est extrêmement grave. Et il a mis Dieu comme témoin et il a dit, je ne connais pas cet homme. À partir de ce moment-là, le coq a chanté. Et Pierre s'est souvenu de ce que le Seigneur lui avait déclaré. C'est dommage qu'il s'en soit souvenu juste à ce moment-là, quand il était déjà trop tard. S'il avait tenu compte des avertissements au préalable, il ne serait certainement pas tombé dans ce piège. Mais malheureusement, il n'a pas tenu compte. Mais maintenant, son esprit s'éveille. Et d'un seul coup, s'étant rappelé de ce que Jésus avait dit, la parole de Dieu nous dit qu'il pleura amèrement. Et c'est là que j'aimerais ajouter quelque chose qui me paraît important. Le véritable Pierre ne se voit pas dans son déni, mais il se voit dans sa repentance, dont le premier stade se traduit par un profond remords, profond regret. Ses larmes le prouvent. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, Judas a commis aussi un péché comme celui que nous connaissons, très grave. Et à vrai dire, je ne vois pas beaucoup de différence entre le péché qui a été commis par Judas et le péché qui a été commis par Pierre, qui, avec des imprécations, a renié son Seigneur. La différence se trouve dans le fait que, après avoir suivi le même chemin tous les deux, parce qu'il est dit de l'un comme de l'autre, qu'ils se sont enfoncés dans la nuit, retirés dans la nuit, l'un n'est jamais retourné vers le Seigneur. Et il ne le pouvait pas, pourquoi ? Parce que malgré tout ce qu'il avait connu, tout ce qu'il avait fait, je dois dire, Judas n'a jamais appartenu à Dieu. N'a jamais appartenu à Dieu. Et en même temps, c'est un avertissement terrible pour nous tous, mes chers frères et sœurs. Parce que Judas fait pourtant partie de tous ceux qui ont marché avec le Seigneur et dont il est dit qu'ils avaient une telle puissance qu'ils chassaient les démons, guérissaient les malades, faisaient des choses extraordinaires, étaient capables de faire des miracles et certains d'entre eux ont pu voir des prodiges formidables. Et il ne nous est jamais dit nulle part dans la parole de Dieu que Judas n'a pas participé à ces choses-là. Il est dit à un moment donné que les 12 revinrent vers le Seigneur dans une certaine circonstance pour dire, mais c'est merveilleux, formidable, tout ce que nous pouvons faire en ton nom, Tout ce qui peut être accompli. Et Jésus lui-même a dit, oui, c'est vrai, j'ai vu Satan lui-même comme être précipité du ciel jusqu'à terre. Et tous les apôtres avaient donc vu la gloire de Dieu, avaient pu déployer cette puissance formidable. Néanmoins, souvenez-vous d'une chose. À un moment donné, justement à la fin de ce ministère de Jésus ici-bas sur la terre, Jésus avait un entretien avec ses disciples et il leur a dit, vous êtes tous purs. Vous vous souvenez? Quand il a voulu laver les pieds de Pierre et que ce dernier a dit, à Dieu ne plaise, tu ne feras pas cela parce qu'il ne voulait pas l'accepter. Et quand Jésus lui a dit, s'il ne te fait pas cela, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume des cieux. Alors il a dit, ah, non seulement les pieds, mais encore la tête, il voulait le corps entier. Et Jésus a dit, non, celui qui a été lavé, il est lavé une fois pour toutes. On n'a pas besoin d'y revenir. Les pieds, c'est pendant la marche qu'on se souille et qu'ils ont besoin d'être lavés. Et il a dit, vous êtes tous purs, sauf un. Un qui n'avait pas le cœur pur, mais qui pourtant avait participé comme les autres à ce déploiement de puissance, à l'accomplissement de miracles. Et c'est aussi pour cette raison que nous entendons le Seigneur dans une autre circonstance dire, un jour viendra où certains se présenteront devant moi et diront, mais en ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons guéri les malades. Et vous connaissez quelle est la réponse du Seigneur. Il dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Ce qui veut dire donc qu'il y a un moment où nous pouvons, eh bien, pratiquer certaines choses, y compris faire une démonstration d'une certaine puissance. Mais voyez-vous, ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, c'est le fait que nous marchions dans la lumière, comme lui-même est lumière. Et c'est dans cette situation-là, comme Jean l'a dit, et je l'ai cité au préalable, que le sang de Jésus, puisque nous sommes mutuellement en communion avec lui, peut nous laver et purifier de tout péché. Mais voyez-vous, Judas ne marchait pas dans la lumière. Judas était en dehors de la lumière. Il était avec la lumière, mais ne marchait pas dans la lumière. Il a pu découvrir certaines choses qui ont pu faire de lui un homme avec une certaine puissance, mais son cœur n'a jamais été changé. Et voyez-vous, ceci nous interpelle très sérieusement. Et nous avons intérêt à demander à Dieu, accorde-moi la grâce d'un cœur qui soit attentif à tout ce que tu me dis, et puis que l'on puisse plier devant lui pour ne pas rejeter ces avertissements qui peuvent être précieux pour nous. Quand le Seigneur nous reprend d'une manière ou d'une autre, ce n'est jamais, jamais pour nous perdre, jamais pour, dans le fond, nous écraser, mais c'est parce qu'il nous aime et il veut nous relever. Mais pour nous relever, il faut que nous-mêmes, nous ayons le désir d'aller vers lui. C'est la raison pour laquelle, même en évangélisation, voyez-vous mes chers frères et sœurs, nous pouvons parler de l'œuvre que le Seigneur a faite et nous pouvons dire, repentez-vous, changer de direction, mais il faut changer de direction, mais il faut surtout pas oublier d'aller vers le Seigneur. Nous pouvons changer de direction sans aller vers lui. Et ce qui est important, c'est d'aller vers lui, d'avoir avec lui ce contact indispensable, comme Pierre a pu l'avoir, quand précisément il a reconnu son culpabilité et que pleurant amèrement sur son propre compte, il est allé à la recherche du Seigneur. Effectivement, il avait entendu le Seigneur dire qu'après la mort, il ressusciterait, après son élévation sur la croix, il reviendrait à la vie. Et il avait dit à ses disciples, « Vous me retrouverez sur le bord du lac de Galilée. » En tous les cas, il avait dit, « Vous me retrouverez en Galilée. » Et les disciples qui avaient entendu cette parole, d'abord, au préalable, ils étaient que 7, comme l'évangéliste Jean nous le dit dans le chapitre 21. Ils sont allés sur le bord du lac de Galilée. Ils cherchaient et ils ne voyaient pas le Seigneur. Ils ne pouvaient pas le voir parce que leurs yeux peut-être étaient empêchés de le voir. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, eh bien, dans leur faiblesse, ils ont pris une décision. Ils ont dit, c'est Pierre le premier qui a pris cette décision, toujours la même impulsivité. Eh bien, je m'en vais pêcher. Et il est parti quand... Les autres ont vu qu'il prenait cette direction, ils ont dit, nous aussi, nous allons avec toi. Et vous connaissez le texte aussi bien que moi, ils ont pêché toute la nuit, sans prendre un seul petit poisson. Sauf que le matin, de très bonne heure certainement, ils ont vu quelqu'un sur le rivage, un peu semblable à ces marchands qui venaient justement pour prendre le fruit du travail de ces pêcheurs, comme les marchands de poissons qui pouvaient être là pour récupérer ce que les pêcheurs avaient obtenu pendant la nuit. Et comme un simple marchand, il a simplement interpellé ces hommes en disant « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et il les a avoués, il les a poussés, pardon, à avouer leur échec. Ils ont dit, non, nous n'avons rien pris. Et c'est là que Jésus a dit, eh bien, jetez le filet du côté droit de la barque. Et quand ils ont obéi, alors leur filet a été rempli de grands poissons. Et c'est là que les yeux se sont ouverts. Là, ils ont compris que celui qui paraissait être un simple homme, un marchand, comme ceux qu'ils avaient l'habitude quand ils exerçaient cette profession de rencontrer sur le bord du lac de Galilée, en réalité, c'était le Fils de Dieu lui-même. Et Jésus s'est précipité et il est allé vers le Seigneur. Et c'est à cette occasion-là qu'il a pu parler ouvertement avec le Seigneur, qui lui a posé 3 fois la question, « M'aimes-tu ?» 3 fois il avait renié le Seigneur. 3 fois, il lui pose la question, « M'aimes-tu ?» Et c'est là que la réconciliation a été faite. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, moi je trouve que c'est réconfortant de voir comment le Seigneur, dans sa grâce, vient au secours de quelqu'un qui a péché aussi gravement. Peut-être quelqu'un se trouve ici, au milieu de nous ce matin, et sans même qu'il ose le dire, mais dans le fond de son cœur, et bien que n'ayant pas commis une faute aussi grave, il y a des fois des moments où nous ressentons les uns et les autres, eh bien, ce sentiment de nous être éloignés du Seigneur. Pas vrai, frères et sœurs? Et il nous arrive parfois de sentir que nous avons dépassé certaines limites, que nous avons blessé quelqu'un, que peut-être même nous avons fait quelque chose en contradiction avec la volonté du Seigneur. Et cela nous freine dans la louange, nous freine dans un esprit d'adoration, nous freine peut-être même dans cette relation et recherche de communion avec quelqu'un d'autre. Et nous sommes comme bloqués. Mais quand on regarde cela, on dit... C'est quand même formidable de voir la grande miséricorde de Dieu, la grande compassion de Dieu. Jésus n'a pas rejeté Pierre. Il a voulu simplement s'assurer que malgré, évidemment, cette faiblesse, le fait qu'il n'a pas été attentif à sa voix, attentif à ses avertissements, le fait qu'il soit allé aussi loin, Jésus lui a prouvé qu'il l'aimait encore. Je voudrais rappeler à tous ce matin, et à chacun en particulier, l'amour de Dieu est un amour éternel. Mes frères et sœurs, pour tous ceux qui un jour ont fait cette expérience de base, c'est-à-dire qu'ils ont connu la nouvelle naissance, l'amour de Dieu ne change pas. Mais bien sûr, ce n'est pas la même chose pour quelqu'un qui, hélas, n'aurait jamais fait l'expérience d'un changement de cœur, d'un changement de nature. Et hélas, ça pourrait se faire que certains aient entendu, réentendu la parole de Dieu, l'évangile, et plus d'une fois aient été convaincus par l'Esprit de Dieu. Écoutez bien, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Et s'il n'y a jamais eu cette expérience de base, alors nous pouvons nous trouver dans la situation décrite par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il est dit qu'une terre qui a été arrosée abondamment, sur laquelle la pluie est tombée à plusieurs reprises et qui ne produit que des chardons et des épines, eh bien, cette terre-là est tout simplement prête à ce que l'on y mette le feu. Il y a certainement personne dans cette situation ce matin, mais nous avons besoin d'entendre l'avertissement de la parole de Dieu. Et en tous les cas, je voudrais vous dire, mes chers frères et sœurs, la garantie pour nous tous, c'est de vivre humblement auprès du Seigneur, de ne jamais avoir une trop haute opinion de soi, mais de toujours comprendre que nous sommes dépendants de lui et qu'il n'y a aucune décision à prendre d'une manière indépendante, séparée de son amour, en croyant que nous savons plus que lui. C'est lui qui est la sagesse personnifiée et nous avons besoin qu'il règne dans nos cœurs et qu'il règne dans nos vies. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela et que nous puissions le vivre ensemble. Que Dieu vous bénisse.